remplissant le plastique protecteur sans heurts. Heure de passer devant le tribunal. Le procureur ne peut plus m'encaisser. N'apprécie pas mon jeu de rôle dans un centre commercial, mais les produits sont là et me tendent les bras.
Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter, là. Faut...
ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour demain.
Dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant, faut manger, après travailler.
Bonsoir. Vous êtes bien sur Radio Canu 102.2 et c'est le Canu Info du lundi soir. Et on passe tout de suite aux titres.
Donc on commence les titres, on commencera par notre rubrique brève qu'on continue et puis à l'international on parlera du KKK qui replane sur les USA. Et toujours aux États-Unis, on parlera du mouvement de solidarité des Dockers contre les violences policières.
Puis on passera au national avec le fichage des salariés de la RATP qui continue, hein, encore une histoire de fichage à la RATP. Puis on passera à Lille avec les flics et l'extrême droite ensemble pour protéger la statue coloniale de Faidherbe. Et puis on passera à un sujet sur la convention climat, vous en avez sûrement entendu parler, tous les médias en parlent en ce moment, et on terminera avec la grève des éboueurs à Caen.
Et on finira par un petit son de la manifestation de hier en l'honneur de Steve, et puis on finira par un agenda.
Et on commence tout de suite donc avec les brèves.
Voilà, pour les brèves, on commence par les agents de la sécurité ferroviaire qui ne font pas partie de la police mais qui sont finalement des flics comme les autres. Mercredi dernier, à Aulnay-sous-Bois, une femme enceinte de 7 mois a été plaquée au sol pour n'avoir pas eu de billets et de masques. Une vidéo la montre paniquée d'être écrasée sur le ventre et les agents ont porté plainte pour griffure. Ils ont certainement été griffés jusqu'aux os puisque ces griffures justifient apparemment 5 et 7 jours d'ITT. Quant à son mari qui a tenté de s'interposer, il a fini en garde à vue. Au niveau des personnes trans et des travailleuses du sexe, dans une plus grande précarité après le confinement, le STRAS et AcceptTesté déclarent une vague de suicides parmi leurs membres et leurs proches. Beaucoup de mortes et de morts dans ces brèves, je vous préviens d'ailleurs, puisqu'on déplore aussi le suicide de la militante LGBT égyptienne Sarah Eghazi, connue et réprimée avec d'autres personnes, notamment pour avoir brandi un drapeau arc-en-ciel lors d'un concert au Caire, affaire lors de laquelle 75 personnes ont été arrêtées et torturées pour incitation à la débauche. réfugiée au Canada. Elle souffrait toujours de stress post-traumatique et a donc mis fin à ses jours le samedi 13 juin. Bonne nouvelle de temps en temps, la loi contre la haine en ligne retoquée par le Conseil constitutionnel. Pas de censure sans juge et dans des délais aussi courts. Pour rappel, la loi voulait faire porter aux plateformes la responsabilité de la censure de leurs contenus sous peine d'amende et avec un gros risque de censure des contenus militants pour ne pas prendre de risques. À noter, dans la marche des solidarités parisiennes ce samedi, la présence d'un cortège de livreurs sans papier qui réclamait leur régularisation, alors que 200 d'entre eux viennent de se faire virer par Frichti, start-up française de livraison de repas. Vous pouvez suivre leur mouvement par le biais du CLAP, le collectif des livreurs autonomes de Paris, ou bien avec le hashtag Frichti, F-R-E-E-C-H-T-I. Ensuite, Yann Godin, conseiller Pôle emploi, est menacé de licenciement pour avoir mis à jour des anomalies qui excluraient par exemple certains salaires du calcul des allocations chômage. Il diffuse aussi sur son blog Mediapart des informations sur les droits allocataires qui sont rarement justifiés. Et pour ça, il est convoqué demain pour savoir quelles seront ses sanctions. À partir du 1er juillet, le gouvernement israélien va officiellement annexer une nouvelle partie de la Cisjordanie, déjà annexée officieusement par l'implantation de colons israéliens et les transferts forcés de la population palestinienne. Cette annexion faite officielle permettra de limiter plus facilement les déplacements des Palestiniens et à Israël de s'attaquer à une nouvelle zone. Et tout ceci alors qu'est mort hier Ziv Sternhell, israélien survivant du nazisme engagé contre la colonisation israélienne des territoires palestiniens, ce qui lui avait valu en 2008 de subir un attentat à la bombe à son domicile de la part d'un colon israélien. En France aussi d'ailleurs, on perd un antisioniste et militant contre les violences policières en la personne de Maurice Rajfus. Vous pouvez aller lire sur Rebellion l'hommage qui lui a été rendu par la CNT Éducation. Et on refait un peu une petite bonne nouvelle. Marine Le Pen, décidément, s'est fait virer des commémorations de l'appel du 10 juin de l'île de Sein, huée, insultée, elle a raté à deux reprises sa réappropriation. Grève de la faim dans les centres de rétention, celui de Lille, 80 personnes depuis jeudi. Ils réclament la libération de tous tout de suite suite à la suspicion d'un cas de Covid. Pour rappel, durant le confinement, une cinquantaine de personnes y étaient restées enfermées alors que la présence d'une personne malade y avait été confirmée. Aujourd'hui, l'association censée assurer que les droits des prisonniers soient respectés, à savoir l'ordre de Malte, n'est toujours pas de retour entre les murs du CRA. Communiqué des prisonniers complet à retrouver sur le blog abalécra.noblogs.org. Enfermer des gens, c'est en effet les faire courir des risques. Autre exemple aux États-Unis, où depuis mai, le nombre de morts en prison a augmenté de 78%. Le New York Times estime à plus de 68 000 le nombre de prisonniers infectés par le Covid-19. Et les 5 plus grands clusters de l'épidémie aux USA sont des prisons. Pour finir sur les prisons et pour en finir avec les prisons, on relaie rapidement un appel à une semaine de solidarité internationale avec les prisonniers anarchistes pour la semaine du 23 au 30 août. Vous êtes appelés à commencer à imaginer, préparer toute forme de gestes et d'actions pour manifester cette solidarité et visibiliser la répression à travers le monde des militants anarchistes. Et du côté de ceux qui mettent les gens à prison, en France, les syndicats de police s'indignent contre une fresque qui sous-entend qu'il existe des violences policières et tentent encore une fois de faire censurer cette réalité. Et pour finir, quelqu'un qui ne souffre pas de la prison, Balkany, dont l'état de santé est apparemment incompatible avec la détention, a été vu dansant joyeusement hier soir à la fête de la musique.
Et si je peux rajouter une information de dernière minute, justement.
Bien sûr.
Oui, c'est Le Monde et Mediapart qui ont sorti des extraits audio de l'interpellation de Cédric Chouvia. Alors, si vous vous souvenez, c'était ce livreur à scooter qui avait été interpellé et qui était mort de suite de son interpellation le 3 janvier 2020, si je ne dis pas de bêtises. Oui, et en gros, on entend dire 7 fois aux policiers qu'ils ne pouvaient plus respirer. Voilà, ça rentre bien en perspective avec ce qui se passe actuellement.
Et on enchaîne avec l'international pour parler du Ku Klux Klan.
Et oui, alors depuis l'assassinat de George Floyd, les USA sont le théâtre d'un mouvement inédit contre les violences racistes, policières et le racisme systémique. Une mobilisation qui est vécue comme une menace contre la civilisation américaine elle-même pour tous ceux qui dans le pays partagent les valeurs et l'identité WASP. Alors WASP, ça veut dire White Anglo-Saxon Protestant.
Yes.
Alors, pour tous ceux qui avaient voté... Mais j'ai un super accent.
Ouais.
Pour tous ceux qui avaient voté pour Make America Great Again, voilà. La grandeur du pays tient largement au fait d'accepter et d'assumer les fondements ségrégationnistes et suprémacistes blancs du pays, justement. Alors, c'est particulièrement vrai pour les membres de l'extrême droite US, la fameuse alt-right. Déjà mobilisés auparavant contre les mesures de confinement, ces derniers se montrent en ce moment assez menaçants à l'encontre des militants afro-américains réclamant justice, notamment sur les réseaux sociaux, certains appelant plus ou moins explicitement à reformer les fameuses patrouilles du Ku Klux Klan. Alors, pour rappel, hein, le KKK est une organisation blanche et protestante créée dans les États du Sud à la fin du 19e siècle pour maintenir la suprématie blanche et la ségrégation. Et concrètement, ça consistait à chasser et tuer des Noirs. Voilà, alors justement, plusieurs décès récents rappellent fortement cette histoire, hein, et rentrent en écho avec les fameuses menaces des suprémacistes blancs. Malcolm Arch et Robert Fuller, deux jeunes hommes afro-américains, ont été retrouvés pendus à des arbres à 80 km de distance. Alors, l'un dans un parc de Victorville est devant, et l'autre devant la mairie de Palmdale en Californie. Alors qu'un troisième mort a été déploré le jeudi 11 juin à New York. Alors, la police à chaque fois conclut à un suicide dû aux conséquences de l'épidémie de coronavirus, hein, au fait d'avoir perdu son travail, etc. Une version que les familles ont du mal à avaler vu le contexte des manifestations et surtout que les reproches ne montraient aucun signe avant-coureur d'avoir envie de se suicider, d'avoir des pulsions suicidaires, etc. Bon bref, en fait c'est presque sûr qu'il s'agit de meurtres racistes calqués sur les méthodes qu'a toujours employé le Klan dans ses campagnes de terreur, hein, lynchage et surtout de pendre des Noirs à des arbres. Alors, un autre élément vient confirmer cette hypothèse, c'est que récemment une peluche de singe suspendue à un panneau routier par un nœud coulant a été retrouvée près de Portland. Un message à caractère éminemment raciste dans un contexte de tension de plus en plus grande, alors que la police a commis assez récemment le meurtre de Richard Brooks à Atlanta, moins d'un mois après la mort de George Floyd, qui a déclenché une vague de mobilisation antiraciste internationale. Ces meurtres rappellent fortement aussi la vague de décès suspects chez tous les militants et militantes afro-américains et afro-américaines qui s'étaient mobilisés à Ferguson en 2014 au moment des émeutes. Hein. En tout, c'était plusieurs dizaines de disparus et de morts qui ont été à déplorer. Alors, dur de connaître les coupables, tant les enquêtes ont été bâclées en général. Est-ce que c'est des flics, des miliciens d'extrême droite ou les deux ? En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que les méthodes rappellent fortement celles des groupes paramilitaires des pays d'Amérique du Sud, comme en Colombie ou au Brésil.
Et on enchaîne toujours aux États-Unis avec les Dockers cette fois.
Ouais, alors là, de l'autre côté politique, hein. Les Dockers, donc de la côte ouest, la grande classe, donc le syndicat ILWU, donc avec un superbe accent, International Longshore and Warehouse Union, un puissant syndicat. Le Docker basé à Oakland a organisé une des plus grandes grèves et un des plus grands débrayages de la dernière décennie de la côte ouest américaine le 19 juin contre les violences policières et le racisme. Le 19 juin, c'est un jour symbolique puisque c'est le jour de la proclamation d'émancipation interdisant l'esclavage aux États-Unis en 1865. Du coup, ce 19 juin 2020, de San Diego à Seattle, les 29 ports de la côte ouest ont été fermés pendant 8 heures. Pendant ce temps, les dockers grévistes ont participé à toute une série de rassemblements, de marches ou de manifs, aux côtés d'autres organisations syndicales, avec des mots d'ordre antiracistes et contre la violence d'État. Voilà ce qu'a déclaré Keith Shanklin, le premier président noir de la section d'Oakland. Les travailleurs ont plus de pouvoir que beaucoup de gens de ce pays ne le pensent. C'est pourquoi nous allons mettre ce pouvoir en évidence pour faire entendre la voix des travailleurs et des travailleuses et pour faire entendre la voix des Noirs dans ce pays. Pour demander à rendre justice à George Floyd. Alors c'est pas la première fois que ce syndicat se mobilise contre les violences policières. C'était déjà arrivé en 2010 et en 2015. Pour eux, c'est visiblement très clair. Les flics sont les alliés du capital et pas des travailleurs et des travailleuses. Voilà d'ailleurs ce qu'a déclaré un ancien docker membre de ce même syndicat. Si vous regardez les règlements des sections locales de l'ILWU, beaucoup d'entre eux interdisent explicitement l'adhésion de la police. C'est parce que la police a toujours été utilisée comme un outil de la lutte contre les travailleurs. Et ça, ça fait plaisir à entendre dans la bouche d'un syndicat et de syndicalistes. Et non, les flics ne sont pas des travailleurs comme les autres. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'on ne peut pas les blairer et que tous, oui, tous, sont nos ennemis.
Et puis on va écouter de la musique.
Carrément, on va écouter une rappeuse britannique qui s'appelle Nadia Rose, anticapitaliste, féministe, antiraciste. C'est parti.
Who's back? But you never left. Yes, I did. I rose from the dead. some punchlines that'll go over your head. Turn back, I'm a caution ahead. I'm your worst nightmare, stood over your bed. So them girl try corny, but I smell defeat like a hole in your crap. Wow, she's sick and she's bad. She sings and she raps, she shit and she's whack. They talk all that chat, but when they see me, don't speak none of that. Cause nobody bad like me. I'm fucking higher than a block of flats in Battersea. Whoa. And I'm with my team.
Squally,
Squally, where you at, my J?
I'm rolling 10 gear up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gear up in that squad. That's what? That squad.
I'm rolling 10 gear up in that squad. Fucking with my squad?
I think not. Me and my bitches, we roll deep, and we always got green, so we pretty much peas in a pod. I was at the scene, had to flee from the cops. I go inside with no keys for the locks. Excuse me, madam, how did you get on the premises? Well, I came to kill off my nemesis, so I used my juju when I came up in the crevices. And bitches say they're bad, but I'm from where the fucking devil is. So if they get me mad, we're in the yard, disturbing residents. And we leave out the yard, up in the car, disposed to evidence. Cause nobody bad like us.
Nobody bad like us.
But really, we don't want no fuck. Someone roll them blunt, so we can turn shit up. Squally, let me see you brush your guns.
I'm rolling 10 gear up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gear up in that squad. That's what? That squad.
I'm rolling 10 gear up in that squaddy. Came true with the clan, came true with the posse. I came with Mary Jane's, I'm came in it with Molly. Nuff gear in it, that's the way you roll, squaddy. Nuff gear in it, that's the way you roll out. If the line's good, you have to get your phone out. Bare skin tea when we pose for the photos. Some gear are braided, some gear are in cornrows. But still worn dread if we have to. The heart is still like a statue. Been on my grind like my back tooth, yeah. Take out the time, but I fuck zoot.
What else?
Step on the gas, take the back room. Why? Cause if my bitches need me there, well, I'm coming. And if I ain't got the witch, I'm running. I do it for him, it ain't nothing. Squally, let me see you brush your son.
I'm rolling 10 gear up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gear up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gear up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gear up in that squad. That's what? That squad.
Vous écoutez le Canu Info du lundi sur Radio Canu 102.2 et vous venez d'entendre Squad de la rappeuse Nadia Rose. Et on enchaîne au National pour parler de la RATP.
Alors, une fois n'est pas coutume, la RATP s'est faite épingler sur une histoire de fichier illégal des salariés. On vous en avait déjà parlé, la direction de la RATP kiffe ficher ses salariés, notamment en recensant le nombre de jours de grève ou encore les arrêts maladie, pour ensuite se permettre, par exemple, de bloquer leur déroulement de carrière, les isoler, voire tenter de les licencier. Il s'avère que pour le moment, c'est une pratique complètement illégale. La direction de la RATP, cette petite filoute, a voulu faire croire à un cas isolé en suspendant le directeur du centre bus de Bord-de-Marne, le premier endroit, le premier dépôt de bus où un fichier a fuité, a été révélé médiatiquement. Puis, il y en a eu d'autres qui ont suivi, comme celui d'Ivry-le-Brun, par exemple, ou encore Croix-Nivert, Point du Jour, dans le 15e et 16e arrondissement. Et là, tout dernièrement, eh bien, la semaine dernière, on apprend qu'au dépôt d'Anières-Pleyel, il y a également un fichage des salariés sur le nombre de jours de grève et d'arrêt maladie. Ça commence à cumuler sévère à la RATP. Hein. On vous en avait déjà parlé aussi. La RATP a été mise en demeure par l'inspection du travail pendant la pandémie pour mise en danger des salariés. On en est donc à 4 fichiers illégaux pour discriminer les salariés pour des raisons qui sont soit militantes ou des problèmes de maladie. On n'oublie pas non plus que régulièrement, la RATP criminalise les militants syndiqués, comme en ce moment contre des CGTistes convoqués à nouveau le 29 juin dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites. Alors, on rappelle quand même que la RATP a encore une petite fonction de service public, hein, même si c'est un EPIC, mais que c'est donc bien derrière l'État, une fois de plus, qui laisse faire et qui cautionne les pratiques illégales, complètement illégales, de la direction de la RATP.
Et on va passer maintenant à un sujet sur Lille et l'extrême droite qui protège l'histoire coloniale. Alors oui. Alors que je vais y arriver.
Tu t'es fait une bonne transition à toi-même. Ouais.
Justement, j'ai bugué. Bon, bref. Alors qu'aux USA, certains essaient de préserver la ségrégation et le passé esclavagiste, en France, et là plus précisément à Lille, l'État, la police et les groupuscules fascistes cherchent à continuer à célébrer le passé colonial. Hors contexte, hein, 13h à Lille ce samedi dernier, sur la place de la République, à l'appel du Front uni des immigrations et des quartiers populaires, un rassemblement est organisé pour demander le déboulonnement de la monumentale statue de Faidherbe, située place Richebey, de l'autre côté du boulevard de la Liberté. Alors Faidherbe, c'était un administrateur colonial du 19e siècle et un général qui a massacré des milliers d'Africains. Il est responsable de massacres sanglants et d'extermination de villages entiers en Algérie, mais aussi au Sénégal, qu'il a participé largement à coloniser. Et ben justement, il a été l'acteur clé en fait de la conquête du Sénégal et a défendu toute sa vie les théories racistes qui ont servi ensuite à légitimer et supporter l'entreprise coloniale. Or, donc, au départ de ce rassemblement, il y a une centaine de personnes et ensuite près de 200 manifestants qui sont regroupés pour demander la décolonisation de l'histoire et de la mémoire. Alors très vite, il y a les flics qui arrivent, il y a un cordon de répression qui entoure la statue pour la protéger et s'y joignent très rapidement des militants d'extrême droite, hein, de génération identitaire, qui rejoignent les flics et se placent juste à côté d'eux. Et parmi eux, justement, on pouvait retrouver beaucoup de ces figures de génération identitaire que le documentaire Generation 8 du média Al Jazeera sur le bar justement fasciste La Citadelle de Lille avait montré en train d'appeler à commettre des attentats, notamment contre les musulmans. Alors la connivence entre la police et les milieux d'extrême droite, elle est bien connue et ici elle s'étale sans complexe. Hein, les identitaires, ils n'ont pas été contrôlés, il n'y a eu aucune interpellation et ils ont même profiter de la protection de la police pour faire des doigts d'honneur, provoquer les manifestants et lancer des slogans nationalistes comme « on est chez nous », etc. J'ai pas vu de salut nazi, mais franchement, ça aurait pu être... On n'était pas loin, à mon avis. Bref, encore une fois, le pouvoir ne semble pas être embarrassé d'être sur la même ligne politique que l'extrême droite violente. Hein. D'ailleurs, pour rappel, Macron avait en 2018 fait financer la reconstruction d'une statue de Faidherbe. Alors là, c'était à Saint-Louis, au Sénégal, tout en célébrant en même temps ce colon et en dressant un étrange parallèle entre son œuvre et la période actuelle. Une belle illustration que derrière la défense forcenée de certains des statuts de colons ou d'esclavagistes se joue la perpétuation des rapports coloniaux. La célébration de figures coloniales, c'est un symptôme de la perpétuation de la pensée coloniale et du racisme. Car contrairement à ce que nous rabâchent médias et réactionnaires, les déboulonner, ce n'est pas effacer un pan de l'histoire. Hein, contrairement justement à ce qu'ils essaient de la confusion qu'ils essaient d'entretenir entre mémoire, qui reste un choix collectif et politif sur le rapport qu'on a à notre passé, et l'histoire, qui est juste la discipline historique. Hein. À ce que je sache, on n'a pas besoin d'ériger des statues de Pétain dans toutes les villes pour se souvenir de son œuvre. Voilà.
C'est bien vu.
Non, mais c'est vrai. Et à l'inverse, déboulonner ces statues d'esclavagistes et de colons, ce serait l'acte le plus basique pour cette république. Si elle voulait réellement inclure les descendants des anciens colonisés, bref, être vraiment universelle comme elle le proclame à longueur de temps. Et justement, on va vous passer une petite chanson d'un de ces descendants d'anciens colonisés qui a quelque chose à dire à cette république.
Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant ces riches gens d'honneur, de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés, ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La
République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros muterés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués entre immigrés. Faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromanie pompier, votre mémoire est sélective. Vous n'êtes pas venus en paix. Votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas. On le sait parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, ben, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas ingrat, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narco, trafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Clair Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat. Bande d'hypocrites, est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité. S'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France s'y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends, je n'attends plus qu'elle-même.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2 et c'est le Canu Info du lundi. Alors on vient juste d'écouter Lettre à la République du rappeur Kerry James et maintenant on va passer à un sujet sur la Convention Climat.
Oui, on va se demander à quoi sert cette Convention citoyenne pour le climat dont on nous rabâche les oreilles depuis quelques jours et qui a pris fin hier. Et donc on commence par un petit rappel. Il s'agit d'une idée de Macron pour tenter de sauver son cul pendant le mouvement des Gilets jaunes, en organisant ce qui peut avoir l'apparence de la démocratie participative. Il s'agit de 150 Français tirés au sort et mandatés pour faire des propositions pour faire face à l'urgence climatique. Il s'agit bien de propositions puisqu'elles vont être remises au gouvernement qui va en faire bien ce qu'il veut. Peut-être que certaines vont faire l'objet d'un référendum, mais il n'y a rien d'obligatoire. Officiellement, le mandat de cette convention est de définir une série de mesures permettant d'atteindre une baisse d'au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990 dans un esprit de justice sociale. Et on peut le dire tout de suite, c'est un échec. Pour plusieurs raisons. Dont le fait, par exemple, que les propositions partent dans tous les sens.
Bien défaitiste, quand même.
On en parle, donc. Échec d'abord au niveau de la baisse des émissions. Il faudrait éventuellement qu'elle soit toute appliquée pour qu'on voit un effet, et encore. Ces mesures n'allant pas si souvent dans un esprit de justice sociale, elles risquent fort d'être inefficaces. Si on considère comme moi que la justice sociale, c'est quand les riches n'ont pas plus de droits que les pauvres, là c'est raté, puisque de nombreuses propositions visent des sanctions financières et donc qui ne sanctionnent que les pauvres, puisque les riches, eux, peuvent se payer le droit de polluer. C'est le cas par exemple de la proposition de taxer plus les carburants des avions, ce qui va faire augmenter le prix des billets et donc n'autoriser l'avion qu'aux plus riches. Pareil pour la proposition d'augmenter le malus des véhicules polluants. Et même s'il y a quelques propositions qu'on ne peut que saluer, comme l'interdiction de la construction de nouveaux aéroports ou le financement de pistes cyclables, elles sont largement insuffisantes. Pareil pour les mesures sur la consommation. On propose d'afficher le coût en émissions de gaz à effet de serre sur des produits dans le commerce. Mais qu'est-ce que cela va changer tant qu'il y aura des riches et des pauvres? Les pauvres vont continuer à acheter en fonction du prix en monnaie, le moins cher, puisque c'est ceux qui peuvent se permettre. Il y a bien une proposition de taxe écologique sur la fortune, et s'il y a peu de chances que cette proposition ne mène à du concret, on peut la saluer, parmi d'autres moins sociales, mais justement proposer une sorte d'ISF pour l'écologie, c'est un peu masquer le fait qu'une ISF ne doit pas financer que l'écologie. Tant qu'on fonctionne avec de l'argent, il est normal que les plus riches, ceux qui exploitent, participent le plus financièrement pour que cet argent soit redistribué ou utilisé à tous les niveaux de la société et pas que pour l'écologie. Malheureusement aussi, dans les médias, on n'entend pas trop les meilleurs éléments de cette convention. Voici par exemple ce que disait Sylvain Burquier, membre de la Convention citoyenne pour le climat, sur BFM. « J'ai entendu qu'on disait de nous qu'on était des Khmers verts. On a beaucoup parlé des 110 km/h ou de la semaine de 28 heures. Mais nous avons 148 autres propositions cohérentes et structurantes. » Faisant donc passer des mesures qui s'appliqueraient à tous pour des mesures ridicules. Pourtant, la proposition de réduire le temps de travail était pas mal, pour le coup égalitaire et puis logique. S'il faut moins produire et moins consommer, bah, il faut moins travailler, quoi. Et pourtant, cette proposition n'a même pas été retenue dans les propositions finales arrêtées hier soir. Apparemment par peur de la polémique qu'elle allait susciter. Bref, on va encore trop dans le sens de la logique libérale et capitaliste, aussi peu efficace qu'une taxe carbone qui est défavorable pour les plus pauvres. Alors qu'on le sait, ce sont les riches qui consomment et polluent le plus. Ce sont surtout à leur destination que devraient s'appliquer des mesures écologiques. Et pour ça, il y a le contraire d'une taxe qu'ils peuvent au pire payer. Il y a le principe d'un quota par personne à ne pas dépasser. C'est une politique qui a été envisagée en Grande-Bretagne dans les années 2000, mais qui, vous vous en doutez, n'a pas été mise en place, la carte carbone. Il s'agissait d'attribuer à chaque personne un taux d'émission de carbone autorisé, qu'il utiliserait comme bon lui semble. Et d'année en année, on diminuerait cette quantité pour atteindre 1,15 tonnes d'émissions par personne et par an, ce qui apparemment représenterait la part d'un être humain sur Terre. Alors, vous vous en doutez, avec ce principe, on y réfléchit à deux voix avant de prendre l'avion. N'en déplaise à Marine Le Pen, qui critique déjà les maigres propositions de la Convention, qui, pour rappel, n'ont de toute façon aucun pouvoir décisionnaire, en disant qu'elles ne prennent pas en compte la réalité économique et notamment la situation d'Air France. En fait, il faut bien se rendre à l'évidence, on est obligé d'arrêter de privilégier l'économie par rapport à l'écologie. C'est une question de survie, puisqu'apparemment, on est parti pour avoir gagné 5 degrés à la fin du siècle et rendre la planète inhabitable pour les êtres humains. Et oui, la fermeture ou la réduction drastique de certains secteurs supprime énormément d'emplois. Mais c'est faire l'autruche de ne pas voir la solution. Il est quand même stupide de forcer des gens à travailler pour gagner de l'argent et donc pour vivre, si le travail qu'ils font est inutile voire nuisible. Participer à la société qui nous entoure, oui. Travailler bêtement, ben non. Il est grand temps de se libérer de la croyance que pour mériter sa pitance, il faut trimer, il faut se tuer à une tâche et à la place trouver une façon d'organiser la répartition du travail réellement bénéfique et qui soit juste, égalitaire, et si elle comporte moins d'heures de travail par personne, bah tant mieux. En vérité, en France et dans le monde, il y a des millions, voire des milliards de personnes qui vivent en dessous du quota de 1,15 tonnes d'émissions. Pas tellement par choix, mais par limitation économique. Ça peut paraître peu, ce quota, mais on va pas se mentir. C'est vrai que ça veut dire que pour la classe moyenne des pays comme la France, on va devoir changer de train de vie. Mais faire autrement serait considérer que les Français ont plus le droit de polluer que les habitants des pays les plus pauvres. Mais surtout, c'est le seul système qui ferait réellement peser le plus gros des efforts écologiques sur les classes les plus aisées, qui sont malheureusement aussi les classes qui dirigent le monde et qui dépensent beaucoup d'énergie pour discréditer toute mesure égalitaire pour la gestion du climat et de la biodiversité. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas attendre grand-chose de ce simulacre de démocratie. Au final, les participants ne demandent un référendum que pour deux propositions, l'introduction de la notion d'écocide dans le droit pénal et une révision de la Constitution. Bref, rien de très concret. Donc oui, il y a des choix politiques faits par le peuple, mais que ce soit vraiment des choix et surtout qu'on ne leur mente pas. Pas d'écologie possible sans destruction du libéralisme et pas d'égalité si on considère qu'il y en a qui ont plus le droit de polluer que d'autres.
Ouais, moi là tu parles de pas mal de classes sociales, mais on parle pas d'entreprise. Genre les médias sur par rapport à la Convention climat.
Enfin, bah, ce qui dirige les entreprises, c'est quand même une certaine classe sociale.
Ouais, mais je veux dire, dans les débats sur la Convention climat, jamais j'ai entendu le mot entreprise, tu vois. Enfin, bref. Je m'égare.
C'est vrai qu'après, dans les propositions, pour le défendre rapidement, dans les propositions, ouais, ils parlent d'entreprise, mais c'est vrai que c'est pas les propositions qu'on fait ressortir le plus.
D'accord. Bon, bah, on va passer maintenant à un sujet sur la grève des éboueurs à Caen.
Ouais. Alors, pourquoi se sont-ils mis en grève? Alors, pour beaucoup de raisons légitimes, évidemment, et comme d'habitude, mais là, c'est une raison un peu triste, voire très triste. Le 5 juin, l'un d'entre eux, un camarade, un ami, se suicide à la suite de son licenciement. Pourquoi est-ce qu'il a été licencié? Comme chez les cheminots, les éboueurs, eh bien, la direction peut faire un alcootest. Et donc, cet éboueur a fait un alcootest. Et il avait, figurez-vous, le chiffre énorme de 0,19 grammes de litre de sang, donc d'alcool de litre de sang, suite à deux bières. offerte par un client pour les remercier d'avoir été présents pendant le confinement. Donc, le mec boit deux bières, il n'est pas du tout bourré, il se fait contrôler, il se fait licencier, mais directement. Il avait 26 ans de boîte. 26 ans de boîte. Peut-être que ceci explique cela. La boîte s'appelle COVED. C-O-V-E-D. Ce suicide montre une nouvelle fois la violence patronale. Les éboueurs ont été en première ligne pendant tout le confinement. C'est un taf particulièrement physique, particulièrement fatigant, avec des horaires de merde. Là, c'en est trop. La grève a débuté le 19 juin. Ils réclament justice. Ils ont saisi l'inspection du travail, d'une part, et il y a un dépôt de plainte contre l'entreprise, contre la boîte, pour homicide involontaire. Ils réclament également de meilleures conditions de travail et dénoncent une politique autoritaire de la direction, accompagnée de nombreux licenciements et démissions. Leurs horaires de travail sont de plus en plus extensibles. L'hygiène des locaux est déplorable. Leur temps de repos est réduit. Voilà comment on remercie les éboueurs dans cette boîte de merde. On leur souhaite donc bon courage pour cette grève qu'ils ont entamée donc vendredi 19 juin. Et on espère qu'ils auront tout le soutien qu'ils méritent pour eux et en mémoire de leurs collègues et amis tués par la violence capitaliste et patronale.
Ça fait beaucoup de suicides tout ça. On passe au local, puisque hier c'était le 21 juin, jour de la fête de la musique et aussi jour de l'anniversaire de la mort de Steve. Alors petit rappel avec un court reportage sur la manifestation qui a eu lieu à Lyon et qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes.
C'est police partout, Steve dans la Loire, Steve Maya Canisso. C'était un jeune qui dansait pendant la fête de la musique sur les quais de la Loire à Nantes. Et en fait, la police a demandé vers 4h du matin au DJ d'arrêter les platines. Et il y en a un qui a redémarré ses platines sur la musique Porcherie de Berruyer Noir. Et la police n'a pas aimé, ils ont chargé la foule, ils ont fait tomber plusieurs personnes dans l'eau. Et il y a une personne qui n'est pas remontée, c'était Steve, qui a été retrouvé des jours après, et même pas par les services de police, mais par un bateau en fait, qui fait une navette sur la Loire.
Où c'est écrit du coup Lamine Diègue, on n'oublie pas, on pardonne pas. C'est une affaire qui date depuis 2007. Du coup, Lamine était dans un fourgon de keuf où il s'est fait tabasser, tuer. Depuis 2007, il y a tout un collectif qui demande vérité et justice pour Lamine Diègue. Là, c'est récent, ils sont montés jusqu'à la Cour européenne. Après, c'était au plus haut de la justice, après il n'y a plus rien et les flics n'ont toujours aucune condamnation par rapport au maire de Lamine Diègue. Et depuis hier, il y a un appel à manifester pour lui.
Et pendant une minute ou un peu de minute de silence possible, et pour toutes les victimes de violences policières et de justice en France et dans le monde entier.
Voilà, donc rassemblement qui s'est terminé par un feu d'artifice. Et pour compléter brièvement sur ce qu'on a entendu sur Lamine Diègue, la France a proposé à sa famille 145 000 euros pour arrêter ses poursuites contre la France. La famille a accepté sûrement parce qu'ils étaient fatigués, mais c'est quand même un peu un aveu de culpabilité d'offrir tant d'argent pour qu'on arrête les poursuites. Et puis on va faire un petit agenda.
Alors, un petit agenda. Pour commencer, déjà, on va vous parler rapidement de la campagne pour la prolongation de la trêve hivernale. On vous en a déjà parlé la semaine dernière, on avait même un invité. Donc, la trêve hivernale, normalement, ça arrête le 10 juillet. Donc, à partir de ce moment-là, les expulsions locatives vont pouvoir reprendre. Il s'avère que la crise économique déjà en cours et la crise sanitaire fait que beaucoup plus de gens que d'habitude sont dans des situations d'impayés de loyer. Ce serait 6 à 7 millions de personnes supplémentaires à l'échelle du territoire national. La mairie de Paris a, elle, décidé par exemple de prolonger la trêve hivernale pour les logements sociaux. C'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. On a moyen de faire pression sur nos mairies ou nos métropoles ou même le gouvernement pour cette prolongation, puisque d'ailleurs Julien de Normandie, le ministre qui pourrait décider cette prolongation, a pour le moment signifié qu'ils n'avaient pas réellement pris de décision. Donc c'est vraiment le moment de mettre la pression, puisqu'on pourrait empêcher l'expulsion de très nombreuses personnes de leur logement. Et on parlera aussi, on peut aussi également parler des squats, puisque beaucoup de squats vont se retrouver en situation d'expulsabilité à partir du 10 juillet. C'est pourquoi cette campagne donc a déjà commencé. Elle appelle à un nouveau rassemblement devant le Crous mercredi à 18h. Pourquoi le Crous ? Puisque un certain nombre d'étudiants sont encore en cité universitaire, plus que d'habitude, à cause de cette crise. Ils n'ont pas pu rentrer dans leur famille, notamment les étudiants étrangers, particulièrement précaires, et qui se retrouvent dans des situations d'impayés de loyer, et donc qui pourraient se faire expulser en juillet de leur chambre universitaire. Donc rassemblement mercredi à 18h. Et pour cette campagne toujours, également, on vous appelle à venir dimanche à 18h pour une assemblée générale à l'espace communal Guillotière au 45 rue Béchevelin, donc dimanche prochain, 18h, ECG, 45 rue Béchevelin, suivi d'une petite action.
Et puis on a aussi une occasion de faire la fête cette semaine.
Et on a une occasion de faire la fête, bien sûr, je me demandais de quoi tu parlais. Il y a donc une soirée bootleg. Alors qu'est-ce donc une soirée bootleg ? C'est une sorte de radio pirate dans le quartier Guillotière, donc vendredi de de 18h jusqu'au milieu de la nuit, voire la fin de la nuit, sur la bande 89.0. L'idée, c'est viens avec ton poste de radio, ta boombox ou ton téléphone. Et je cite, pour fêter la vie, faire la mémoire du quartier Guillotière et rendre hommage aux victimes des violences policières. Des concerts seront retransmis en direct sur cette radio bootleg. Voilà, pour ça, c'est pour le vendredi 26. Donc venez faire la fête avec nous à la Guille.
Et puis voilà, est-ce qu'on a d'autres dates ?
Oui, j'ai vu vite fait, le même jour, enfin le même dimanche que l'événement à l'ECG, à partir de 16h, il y a un goûter, du goûter à l'apéro contre Bouygues, donc c'est contre le projet immobilier sur les pentes de la Croix-Rousse mené par Bouygues Construction. Voilà.
Ouais, mais venez à l'ECG quand même.
On rappelle d'ailleurs qu'il y a des, à l'espace communal des distributions alimentaires de bouffe le mercredi et le vendredi à partir de 17h30, gratuites. Et le marché rouge aussi le jeudi de 17h à 19h, c'est-à-dire des légumes et des fruits de bonne qualité à plus ou moins 1€ en fonction de vos besoins.
Oui, d'ailleurs, et pour nos auditeurs de Villeurbanne, à QC, il y a une épicerie gratuite aussi, c'est le jeudi à 16h, la maison Jean-Pierre Audard. Voilà.
On n'a plus qu'à vous dire une bonne soirée.
Voilà, il est 19h42, à ces jours-ci, et puis à la semaine prochaine surtout.
Voilà. Et puis après un peu de bande continue, vous retrouverez Blasphème FM.
Allez, salut. Adieu.